Alors, de retour avec Loïc Tassé pour faire le tour de certaines nouvelles internationales. D'abord, parlons un petit peu d'Aung San Suu Kyi. Elle est quand même prix Nobel de la paix. Oui. Elle dirige présentement la Birmanie et elle est attaquée de toutes parts parce que, dit-elle, on lui reproche de ne pas s'occuper suffisamment de cette minorité musulmane, on dit bien Rohingya?
Rohingya,
oui. Rohingya.
Oui, mais écoute, il y a 130 minorités, il y a plus de 130 minorités en Birmanie. Les Rohingyas en sont une, ils sont arrivés à la fin du 18e siècle. Ils ont été amenés par les occupants anglais, ils ont été très proches des Anglais, tellement proches qu'au moment de la guerre d'indépendance, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, les Rohingyas se sont ralliés aux Anglais et non pas au reste des Birmans qui voulaient faire leur indépendance. Ce qui, je pense, est une des raisons pour lesquelles ils sont mal vus comme minorité en Birmanie, en plus du fait, évidemment, que ce sont des musulmans, ce qui est aussi important. Mais donc, ces Rohingyas, rappelons les faits, sont beaucoup pourchassés à l'intérieur du pays, sont vraiment maltraités.
Pourquoi ils sont pourchassés? Pourquoi ils sont...
Pour ces raisons que je t'ai expliquées. La population ne les aime pas. Ils sont trop différents. Ils sont.
Mais est-ce qu'ils n'ont pas. Il n'y a pas un territoire qu'ils occupent?
Ils ont un territoire. Ils occupent un territoire sur la côte aussi, mais ils ne sont pas très, très nombreux. Ils font pas comme les autres, donc ça pose des problèmes. Et en plus, comme on le disait les semaines précédentes, la semaine dernière, en fait, ils ont des milices armées à l'intérieur de cette minorité. Il y a des milices armées qui ont été entraînées, fort probablement, en tout cas, qui sont soutenues par l'Arabie saoudite. Et donc, on sent ici aussi qu'il y a de l'islamisme qui existe chez cette minorité, ce qui ne fait pas l'affaire des bouddhistes et ce qu'on ne dit pas beaucoup. Donc, ces gens, quand même, cette population a été quand même obligée de fuir parce que l'armée... Parce qu'il y a eu des attaques donc de ces fanatiques musulmans contre des postes de police pour défendre les droits des Rohingyas. L'armée a été appelée. Là-dessus, l'armée aurait commis toutes sortes d'exactions, aurait entre autres brûlé des maisons des Rohingyas. Et de toute façon, ce qui en résulte, c'est qu'on a maintenant plus de 400 000 Rohingyas en même pas un mois qui ont fui la Birmanie pour se réfugier au Bangladesh. Donc, il y a vraiment une oppression.
Qui est un État à majorité musulmane.
Qui est un État à majorité musulmane. Donc, ce qu'elle a fait, Mme Suu Kyi, c'est qu'elle a appelé à mettre fin aux divisions religieuses, mais elle n'a pas critiqué l'armée. Elle a quand même promis de punir les coupables s'il y avait des preuves très, très solides. Le discours a été mal reçu par beaucoup d'organisations non gouvernementales comme Amnesty International parce qu'on trouve que c'est trop peu, qu'il n'y a pas de condamnation.
Justin Trudeau aussi, c'était là-dessus, il s'est prononcé.
Il voulait qu'elle dise quelque chose, il l'a appelé au téléphone aussi. Et donc, il voulait qu'elle fasse quelque chose. Mais le problème, c'est qu'elle ne peut pas faire tant de choses que ça. Elle est à la tête de ce pays, mais ceux qui dirigent, c'est les militaires. La Constitution est une Constitution qui donne tous les pouvoirs importants aux militaires. Et si elle s'oppose trop aux militaires, elle va être mise dehors, tout simplement.
Parlons de la Norvège. Le chef des services de lutte contre le crime organisé qui a été condamné à 21 ans de prison.
C'est Erik Jensen qui a reçu au moins 100 000 $ en pot de vin pour aider à faire passer en Norvège 14 tonnes de haschich entre 2004 et 2013. Il semble qu'il expliquait à un trafiquant quand est-ce qu'il était ou non sous surveillance, ce trafiquant. Et donc, il a reçu 21 ans de prison, ce qui est le maximum permis par la loi en Norvège dans les cas de corruption. Et ce qui, semble-t-il, est très rarement appliqué comme mesure. Mais effectivement, c'est assez grave.
Pour les Norvégiens, c'est catastrophique.
C'est catastrophique.
Parce qu'ils ont, mettons que la probité, c'est une valeur nationale très forte.
Il y a des malhonnêtes en Norvège comme partout ailleurs.
Mais ils ont une très haute...
Une culture très forte de la probité. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est étonnant. Et c'est pour ça qu'il reçoit 21 ans aussi. Je pense que ça a choqué profondément les gens en Norvège.
Ils veulent en faire un exemple, c'est bien clair. Alors, il faut parler de Stanislav Petrov. Il est décédé, le grand Petrov. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le grand Petrov?
Écoute, à cause de lui, on est peut-être encore vivant sur cette planète. Figure-toi que... Il vient de mourir, mais on l'a su tout récemment.
C'est un russe.
Oui. Le 26 septembre 1983, il est au centre de commandement et par ordinateur, tac, 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 chez les vieux ordinateurs, les feuilles, clac, 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 il reçoit des informations qui lui disent... nous sommes sous attaque. Des missiles américains viennent d'être lancés contre la Russie. Ils vont arriver en Russie dans une vingtaine de minutes. » Lui est tétanisé par cette information-là.
Il aurait pu donc...
Et là, il dit, qu'est-ce que je fais?
Ouais, est-ce que je lance la frappe nucléaire?
Est-ce que je lance la frappe? Ou alors, est-ce que c'est une erreur? Et lui, il se dit, ça doit être, c'est pas possible, c'est une erreur. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le téléphone, il appelle le responsable des systèmes de surveillance et il dit, il y a un problème de fonctionnement avec notre système de surveillance. Et en effet, d'abord, il recevra pas sur la tête de bombe atomique. 23 minutes après, il dit, j'étais très soulagé de voir que j'avais pris la bonne décision. Mais on a découvert qu'en fait, c'était des reflets du soleil dans des nuages qui auraient trompé, semble-t-il, les satellites, qui auraient fait croire qu'il y avait des missiles qui se dirigeaient sur la Russie. Et donc, grâce à lui, ça n'a pas été transmis au haut commandement. Et on sent que la machine aurait pu très, très facilement s'emballer du côté russe. Et on aurait pu effectivement avoir une guerre atomique pour rien.
C'est incroyable.
C'est une histoire incroyable. Oui.
Et c'est vrai, là. Tout
oui, ce, oui, c'est vrai. Ça a été révélé, en fait, par la BBC en 2013. Et c'est justement le réalisateur de l'émission qui l'appelait pour lui souhaiter bon anniversaire ce mois-ci qui a appris qu'en fait, il était décédé. Donc, on a ressorti l'histoire
tu vois,
à cette
quand
occasion-là.
Toutes les conneries autour des essais nucléaires de la Corée du Nord, tu sais, on se dit toujours, il pourrait arriver un accident à un moment donné, hein? Là. Puis là, tu te dis, si c'est Trump qui voyait ça sur son écran, là, est-ce que lui ordonnerait la frappe nucléaire sur la Corée du Nord?
J'en suis convaincu.
OK, ça va bien.
On va s'arrêter. Je pense là-dessus. Pas qu'il aurait... Est-ce une erreur informatique?
Non! We must destroy North Korea! Pèse le piton, toi. Ouais.
Hey boy. T'as un accent un peu Jean Chrétien, je dois dire, quand tu fais ça.
C'est pas un très bon accent de Donald Trump, je dois dire. Je suis assez d'accord avec toi. Loïc Tassé, merci.
C'était un plaisir.
Et on a toute une troisième heure de prévu pour vous. Revenez-nous, s'il vous plaît, dans un instant.